Frères et sœurs, recevons de la part de l'Éternel notre Dieu la grâce, la paix et l'assurance que cette grâce et cette paix ne sont pas simplement l'effet d'un moment, l'effet de cette matinée, mais qu'elles nous sont promises jour après jour. C'est là une promesse qui nous invite à nous réjouir et je vous propose de nous retrouver par le chant du premier répond indiqué sur votre livret liturgique. Réjouissons-nous au Seigneur. Notre reconnaissance s'exprime pour la présence aussi du pasteur François Claveroli, président de la Fédération protestante de France, qui est notre prédicateur ce matin. Notre reconnaissance s'exprime aussi pour la présence d'Alima, qui a demandé le baptême et qui sera tout à l'heure plus au centre de notre liturgie. Et c'est sa marraine, justement, qui a choisi ce psaume qui sera notre louange maintenant. Gens du monde entier, faites une ovation au Seigneur, dit le psalmiste. Offrez-lui un culte joyeux. Présentez-vous à lui avec des cris de joie. Sachez-le, c'est le Seigneur qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. En entrant dans son temple, acclamez-le. Dans la cour intérieure, exprimez vos louanges, louez le Seigneur, remerciez-le d'être votre Dieu. Oui, le Seigneur est bon et son amour n'a pas de fin. De siècle en siècle, il reste fidèle. Amen. Poursuivons notre louange par le chant du psaume 116 dans son harmonisation genevoise, donc le 116b. Nous chanterons les strophes 1 et 4. Baptiser, c'est une occasion pour nous de répondre à cette vocation exprimée dans la fin de l'Évangile selon Matthieu, lorsque Jésus s'adresse à ses disciples, selon ses évangélistes, en ces termes. Allez, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai appris. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous nous recueillons dans la prière. Dieu notre Père, un jour nous avons été baptisés. Pardonne-nous de l'oublier. Nous avons été précisément baptisés en ton nom de Père et nous ne t'aimons pas de tout notre cœur. Nous ne savons ni dire ni montrer que nous sommes tes enfants. Nous nous écartons volontiers de toi et nous voulons marcher seuls. Nous avons été baptisés au nom de ton Fils, mais aimons-nous véritablement notre prochain? Ne cherchons-nous pas plutôt notre propre intérêt que le service? Nous avons été baptisés au nom de l'Esprit, mais quand avons-nous porté les fruits de l'amour, de la fidélité et de la joie, véritablement? Nous t'en prions, Père, accorde-nous ton pardon et donne-nous de vivre dans ta paix et à ton service. Amen. Ainsi parle l'Éternel, oracle prophétique qui s'adresse à nous encore ce matin. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous mon esprit, je serai votre père, vous serez mes fils, mes filles. Et celui qui écoute ma parole, dit Jésus, et qui croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Frères et sœurs, c'est par ces paroles qui retentissent tout au long des textes bibliques que Dieu nous met au cœur l'assurance de son pardon. Et c'est ainsi qu'il nous donne de marcher tous ensemble vers cette terre qu'il nous promet. Amen. Prenons place. Il y a donc quelque temps Alima, vous poursuivez votre recherche et travail spirituel et vous tombez sur, j'allais dire, l'un des organes de presse les plus fameux dans l'espace francophone, Évangile et Liberté, publicité gratuite. Et vous découvrez une communauté spirituelle, une sorte de fraternité théologique qui correspond à ce que vous intuitionnez depuis quelque temps déjà. La question est de savoir si ce ne sont pas simplement de belles idées, de belles paroles, est-ce que cela peut se concrétiser ? Est-ce que cela peut être vrai, s'incarner ? Et chemin faisant, vous continuez par cet autre organe médiatique qui est semblable au premier, le site de l'Oratoire du Louvre, non moins connu dans l'espace francophone, et vous débarquez du coup à l'Oratoire pour voir ce qu'il en est. Est-ce possible ? Cette intuition théologique peut-elle se concrétiser ? Aujourd'hui, vous manifestez par votre présence qu'il semble qu'il y ait effectivement la possibilité d'une communauté réelle qui incarne ce cheminement. Et plutôt que d'en parler, je vais vous laisser la parole pour dire un peu quel est ce parcours qui vous conduit ici ce matin.
J'ai grandi dans un univers catholique qui a toujours respecté la religion de ma famille. Et j'ai très tôt su et ressenti une appartenance à la foi chrétienne. Mais le décorum et les dogmes m'ont toujours fortement dissuadée, voire rebutée. Plus tard, j'ai rencontré le protestantisme, auquel je me suis sentie immédiatement appartenir. En fait, c'était la langue que je pratiquais sans le savoir. Mon parcours s'est prolongé par la recherche d'une communauté davantage orientée vers le questionnement que vers des réponses déjà établies. Cette communauté devait être dans l'exigence d'ériger la liberté de chacun comme préalable indiscutable. Cette rencontre s'est faite il y a quelques mois, ici, à l'Oratoire du Louvre. J'ai réalisé que non seulement nous parlions la même langue, mais que nous utilisions également le même dialecte. Ce fut d'abord un choc, puis très vite, le début d'un partage. Votre accueil, aussi chaleureux que discret, a fini par me décider qu'au-delà de la communauté des chrétiens et de la tribu des protestants, l'oratoire était ma maison. Merci.
Alors, que demandez-vous ?
Je demande le baptême.
Alima, je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il aura pour toi des transports d'allégresse, dit le prophète. Amen. Alima, ce baptême que vous venez de recevoir est bien sûr l'expression de votre foi. Mais cette communauté qui est votre communauté désormais, cette famille spirituelle qui est la vôtre, s'enrichira d'entendre une expression verbale de cette foi qui vous anime. Et parce que c'est précisément votre famille, nous allons nous associer maintenant à votre profession de foi qui sera la confession de notre foi pour ce dimanche. Je vous invite donc à vous lever.
Je crois en Dieu unique et ineffable. Je crois que l'Éternel nous a créés libres et dotés de raison, afin que nous soyons sujets de notre propre existence. La grâce nous est donnée par amour et sans condition. Je crois en Jésus-Christ, dont le message nous révèle l'altérité absolue. Je suis guidée par l'espérance qui contribue à m'ouvrir une voie dans cet océan d'absurde, et je suis animée par le pouvoir de la parole incarnée des évangiles. Je crois que la foi, toujours en construction, est une dialectique entre le doute et l'espérance. La foi est constamment nourrie par l'amour et le pardon, qui font de nous un enfant de Dieu, et donc nous ouvrent à l'autre. À un autre frère, à une autre sœur, à notre frère, pardon, à notre sœur, à un autre nous-mêmes. Je crois que la prière, ce lien singulier et direct avec Dieu, nous unit à la communauté de tous les hommes. Je crois à la résurrection dont le baptême est l'écho. Je crois au miracle de la vie avant la mort. Amen.
Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Amen. Prenons place, frères et sœurs. Halima, vous avez donc reçu ce baptême qui est le signe de l'amour inconditionnel de Dieu pour vous, très précisément. Un amour qui avait été manifesté en Jésus-Christ et qui s'actualise pour chacun et donc pour vous. Vous avez exprimé cette grâce qui vous anime par la profession de votre foi. Nous vous recevons comme membre d'Église à travers ce geste d'Église. Vous avez votre place à la table du Seigneur et les choses sont bien faites, vous y aurez droit dès à présent. Et vous avez droit aussi au travail de son Église, car évidemment, le baptême n'est pas le point final de votre histoire. Et je vous laisse nous dire justement ce qui s'ouvre devant vous.
Ce baptême constitue un point d'étape dans ma vie. Il est l'aboutissement d'un cheminement personnel et fait suite à un travail aussi bien spirituel que théologique. Par cet acte, je prends conscience, aujourd'hui, qu'il ne s'agit pas d'échapper aux doutes ou de construire une forteresse de certitude. Bien au contraire, le doute demeurera structurel dans cette recherche. Mais il s'agit dans ce cas d'un doute fertile, d'un doute synonyme d'une dynamique permettant de grandir et de ne pas verser dans la résignation ou le cynisme. Il est question par ce baptême de signifier une appartenance spirituelle et religieuse ainsi qu'un engagement fraternel. Cet horizon qui s'ouvre sur plus grand que soi, sur ce qui ne dépasse, n'est plus un chemin solitaire. Dans cette perspective, la recherche commencée avant le baptême va naturellement se poursuivre avec la lecture de la Bible, la prière, ainsi que l'échange avec la communauté des croyants en général et l'engagement dans cette communauté-ci en particulier.
Je profite de la présence du président de la Fédération protestante de France pour lui dire que cette communauté particulière n'est pas une communauté où nous parlerions tous la même langue et le même dialecte. Et je fais l'hypothèse que le spectre théologique et spirituel de notre communauté est sinon plus large que celui de la Fédération protestante de France, au moins représentatif de ce qu'est intrinsèquement cette fédération mosaïque, cette fédération arc-en-ciel. Façon aussi pour moi de vous dire à quel point, Monsieur le Président, tu es le bienvenu ici, et tu es surtout ici chez toi. Nous allons du coup, de façon communautaire, prier pour vous, Halima. Éternel notre Dieu, merci pour ce que tu nous donnes jour après jour. Merci pour ta parole qui nous guide les uns vers les autres, cette parole qui nous associe, cette parole qui fait de nous une communauté, un peuple qui transcende toutes les frontières, qui va au-delà des cultures. Nous te remercions pour cette sœur que ton amour nous permet d'accueillir aujourd'hui. Et grande est notre joie pour ce moment de foi, ce moment de confiance en toi, ce moment de confiance en la vie véritable. Alors fortifie tout particulièrement la foi d'Halima, est de nous, jour après jour, dimanche après dimanche, année après année, à nous approcher sans cesse plus près de toi, à être plus confiant dans ta parole, à être plus au service des autres, et que ta joie, ô notre Père, soit notre force. Amen.
Frères et sœurs, chers amis, nous lisons ce matin le texte du jour, tiré de l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 5, les versets 17 et suivants. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de la lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère « Raca » sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui lui dira « insensé » sera passible de la géhenne, du feu. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Arrange-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et que tu ne sois mis en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Mais moi je vous dis de ne pas jurer, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Et dans ce texte, je retiens particulièrement une phrase que je développerai dans quelques instants. Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il nous est proposé le cantique 178, les trois strophes.
Aujourd'hui, tout le matin, Seigneur, au nom du Seigneur, qu'à Dieu monte sa prière, à Jésus le Rédempteur. Aujourd'hui son évangile en tout lieu soit public. Son joug facile, tout pécheur soit convié. Aujourd'hui rempli de joie, en écoutant son appel, bien des cœurs
Dieu notre Père, nous t'en prions, rends-toi présent par ta parole, une parole qui nous surprend, qui nous dérange, qui nous agace, qui nous plonge même parfois dans le doute. Ô Dieu notre Père, viens parmi nous à travers ta parole, mais une parole de paix, de grâce et de bonheur. Par ton esprit, illumine nos vies. Ouvre nos intelligences et fais-nous recevoir cette grâce aujourd'hui, demain et toujours. Chers amis, frères et sœurs, avant toute chose, je voulais remercier les pasteurs de cette paroisse et le président du conseil et tous les membres du conseil pour l'invitation qui me fait d'être avec vous dans ce lieu extraordinaire que j'ai découvert encore une fois hier soir à l'occasion d'un concert. Je voulais aussi vous dire combien je suis heureux de présider ce moment de méditation à partir d'un texte de l'Évangile, qui est au fond le texte du jour, parce que j'aurais pu me choisir l'un de mes textes préférés, j'aurais pu vous imposer mes préférences, j'aurais pu aussi inventer quelque chose et ne pas prêcher sur la Bible. Après tout, on peut trouver dans d'autres lieux, d'autres écrits, d'autres textes, des éléments de méditation très proches de ce que nous allons trouver dans l'Évangile de Matthieu. J'aurais pu aussi vous parler de la Fédération protestante de France et vous raconter l'Assemblée générale, les projets, les défis. J'aurais même pu développer, peut-être que j'aurai l'occasion de le faire au moment des annonces, ces fameuses mutations du protestantisme français qui donnent de plus en plus aujourd'hui un aspect multicolore aux paroisses qui le composent. Multicolore au sens non seulement ethnique et culturel ou national, mais aussi spirituel, liturgique, théologique. J'aurais pu, mais nous avons l'Évangile avec cette phrase de Jésus. Si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Voici une belle accroche, donc, que je garde pour vous, pour une prédication dans cette belle paroisse de l'Oratoire du Louvre. Vous n'entrerez jamais dans le royaume si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens. Mais au fait, connaissez-vous des scribes et des pharisiens ? Connaissez-vous leur justice ? Qui parmi vous a jamais été en relation avec des juifs de cet arrondissement ou de cette ville ? Nul doute que vous êtes très nombreux à connaître parmi vos amis et dans vos réseaux de personnes, membres de la synagogue et du consistoire. Ici, en un lieu d'ouverture et de dialogue, comment imaginer qu'il en soit autrement ? Vous aurez eu alors devant vous l'image de l'humble obéissance, de l'authentique fidélité, de la véritable justesse d'une vie tout entière, orientée par l'observance et les pratiques qui ponctuent chaque jour, chaque mois, chaque année, en signe de véritable fidélité. Vous aurez alors compris combien la parole de Jésus, ce rabbin conservateur, comme le décrit un commentateur avisé, ce rabbin conservateur, ce maître qui renvoie sans cesse son auditeur à une observance renforcée, à une fidélité encore plus attentive aux préceptes de Moïse, rappelle inlassablement l'importance du faire, l'importance de l'agir, l'importance de l'engagement, de l'accomplissement précisément. Lui qui n'est pas venu se passer de la loi, mais l'accomplir. Et combien par ces injonctions, pas toujours amènes, lorsqu'il dit par exemple, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi, je vous dis. Des injonctions pas toujours amènes, mais qu'il ponctue heureusement par un amen, amen, moi je vous le dis. Eh bien, il replace chacun de nous devant sa vie, devant ses relations humaines, devant son prochain, devant le plus proche, devant le conjoint, devant le fils ou la fille, devant celui avec qui l'on vit chaque jour. Les croyants que nous sommes doivent donc se tenir aux aguets quand ce maître Jésus parle, quand ce maître nous parle. Certes, il aime peut-être que nous soyons croyants, et les croyants, vous le savez, et les protestants en particulier, aiment à se définir ainsi, comme de véritables croyants, des croyants qui ont la foi. Mais lui, demande des signes à cet égard, et il ne se paye pas de mots. Il aime la foi, mais aussi l'acte de foi, la foi en acte. Car pour Jésus, la justification par la foi n'est pas la justification par les œuvres qu'on ne fait pas. Jésus n'est pas un maître de sagesse seulement, ce type épatant qui se donne en modèle et que même les incroyants admirent en lisant ses propos, mais sans jamais les comprendre tout à fait, ni sans jamais les suivre. Jésus n'est pas un maître de sagesse seulement. Il n'est pas non plus cet exemple humaniste pacifique que nos mémoires protestantes très 19e gardent précieusement, comme on garderait pieusement une relique tout au fond de soi. Imaginant d'ailleurs que ce faire mémoire très personnel, intime, concernant Jésus, suffirait, comme si la foi n'était que de l'ordre du souvenir, comme si la foi était l'acte de la vestale, celle qui tient le feu allumé. Ici, un feu hebdomadaire qui s'allumerait chaque dimanche. Non, Jésus, maître de la vie, est vivant aujourd'hui. Il n'est pas seulement rabbin conservateur, il n'est pas seulement maître de sagesse. Il est homme vivant au milieu de nous. Et sa présence est réelle. Et les mots de lui que nous tirons de l'Évangile, l'Esprit nous les fait entendre maintenant. Car il se tient au milieu de nous. Jésus n'est pas un mort-vivant maintenu artificiellement par le branchement de notre souvenir fidèle. Il ne nous demande pas d'être de bons souvenants, d'être de bons historiens, de bons archéologues de son trajet de jadis. Il ne demande pas d'être non plus seulement des hommes et des femmes corrects, qui se tiennent correctement, des hommes et des femmes conformes aux usages, de bons citoyens, de bons chrétiens, qui appliquent les règles. Il n'attend pas de nous que nous soyons non plus obsédés par la bonne doctrine. Et tout à l'heure, on a repéré que même dans cette paroisse, il y avait diversité de doctrines. Peut-être même des doctrines proches de l'hérésie. Et pourquoi pas ? Il nous demande non pas d'être des hommes et des femmes gardiens de la bonne doctrine. Il n'a pas prévu un jour de colère pour régler ses comptes. Mais il dit, et c'est ce que je voulais vous rappeler ce matin, il dit quand même, Jésus, un peu brutal, c'est vrai, mais c'est en bonne part, je vous le promets. Il dit, vous n'entrerez pas, vous n'y arriverez pas. Et s'il dit cela, c'est parce qu'il vous connaît bien. Il vous connaît très bien et il vous suit depuis longtemps, depuis votre naissance et peut-être même depuis avant votre naissance. Et il sait que vous saviez cela déjà, que vous n'entrerez pas tout seul. Il sait que vous le pressentiez. Être conforme à la limite, c'était à votre portée. Être juste, être en règle avec la loi, avec le fisc, avec la politesse, avec les codes paroissiaux, les codes du travail, les codes de l'entreprise, oui, c'est à votre portée. Supporter votre belle-mère, oui, vous l'avez fait, vous le faites encore peut-être. Élever les enfants dans la paroisse et cotiser, oui. Tout cela, vous pouviez le faire, vous en étiez capable, vous en êtes capable. Mais vous ressentiez déjà depuis longtemps en vous-même que cela ne suffisait pas. Vous n'entrerez pas. Même avec tous les certificats de bonne conduite, même avec les meilleurs bulletins et les meilleures places, même avec les meilleures généalogies qui remontent aux galères, et pourvu que l'ancêtre se soit fait prendre, comme cela son nom est gravé sur un mur. Vous n'avez pas commis de meurtre, ni les pires choses de la vie. Vous savez tout au fond de vous-même que votre vie est peut-être, et c'est là que je veux en venir, vous savez tout au fond de vous-même, que votre vie est peut-être plus sombre encore que tout cela. Vous n'avez pas commis de meurtre, peut-être même pas l'adultère. Vous n'avez peut-être même jamais battu quelqu'un avec vos poings. Vous ne vous êtes peut-être même pas fâché avec votre fils ou votre fille. Mais vous savez que votre vie est peut-être plus terrible encore, qu'elle est torturée, douloureuse, brisée, et qu'elle se tient cachée au fond de vous-même, inavouable, impardonnable. Car même sans le meurtre se nourrit la colère, la haine, la jalousie en vous. Même sans l'adultère, sourde l'envie, l'addiction, la violence, le mépris, la suffisance, la lâcheté. Et se construit peu à peu le refus de s'avouer tout cela, de se l'avouer à soi-même et de l'avouer à l'autre, le plus proche, le conjoint. Non, vous n'entrerez pas, vous ne pouvez pas entrer comme cela. Vous n'êtes pas en paix avec vous-même si vous voulez être vraiment authentique et honnête. Certes, un bon nombre de philosophes du bonheur qui font fortune en ce moment vous disent, en édictant des préceptes et en citant les auteurs de la Grèce antique, que vous y arriverez, que c'est à votre portée. Ils vous disent que le bonheur est devant vous. Oh, excepté le royaume qui, à leurs yeux, n'existe pas. Ils vous disent que tout se joue ici et maintenant, qu'il n'y a pas de temps à perdre pour être heureux, que tout dépend de votre choix, que vous le valez bien, que ce bonheur à saisir dans l'instant, vous n'avez qu'à le cueillir. Et dans ce monde de l'immédiateté, où le temps est humilié et réduit à l'horaire du prochain journal, vous n'avez plus de temps à perdre. Il faut acheter le livre de recettes ou le commander sur le site prévu à cet effet. Non, vous n'entrerez pas, parce que vous ne vous contenterez pas de ce livre. Que reste-t-il alors aux pauvres croyants que nous sommes, puisque nous ne pouvons rien faire de plus, puisque nous sommes pécheurs, certes, mais pécheurs honnêtes, des pécheurs malheureux, mais honnêtes quand même. Il nous reste à poser des actes de foi comme les scribes et les pharisiens, et à faire mieux qu'eux, si c'était possible. C'est ce que nous demande Jésus. Il nous reste à voir dans la loi, dans les lois, dans toutes les lois, dans tout ce qui fait notre vivre ensemble, non seulement dans l'Église, mais dans notre société. Il nous reste à voir dans les lois et dans notre vivre ensemble ce qui est injuste, pour le dénoncer et le faire avancer. Dans la loi, dans les lois, dans notre vivre ensemble, ce qui est insupportable et que l'on peut changer. À commencer, comme Jésus le fait lui-même, par ce qui touche à la violence dans les rapports humains, la violence à l'égard du plus petit, de l'enfant, du conjoint, du subordonné, du détenu, du malade, du mourant, de celui qui se sent exclu, alors qu'il ne l'est peut-être pas, mais qui en souffre, à celui qui est exclu, réellement, de l'étranger, de l'handicapé, bref, de votre voisin de chaise peut-être, tout simplement. Va te réconcilier, dit Jésus, avant de te déclarer bon croyant. Et mets en pratique ce qui t'est demandé dans ta relation avec l'autre, bref, que ton acte de foi soit un acte qui, entre Dieu et toi, fasse advenir le tiers oublié, l'autre que tu n'avais pas vu. Vous n'entrerez pas, dit Jésus, si vous comprenez la foi seulement comme une relation à Dieu, une relation à deux, comme si croire était une pensée, une idée, un lien à deux, entre lui et vous. Au fond, comme si vous pensiez que la foi est une sorte de coquetterie de l'âme qui vous permet d'être en proximité avec Dieu. Comme si la foi concernait des individus et leur Dieu pour un bon voisinage de confort, et non des humains en relation les uns avec les autres dans le monde. Vous n'entrerez pas, dit Jésus, voulant signifier ainsi que vous n'entrerez pas seul, sans les autres, sans votre voisin, sans votre conjoint. Vous n'entrerez pas contre les autres, en les bousculant ou en marchant sur leurs pieds. Le royaume dont parle Jésus est à cet égard un territoire, un espace ouvert, large, une contrée, peut-être imaginaire, mais qui renvoie à notre royaume ici même, où chacun doit trouver sa place, comme Halima aujourd'hui trouve sa place parmi nous. Va te réconcilier, reparle avec ton conjoint, offre ton visage à celui que tu fuis dans la famille, entre dans la cité, prends ta place pleinement dans le débat. Et puis, comme il y a des échéances, bientôt, va voter. Va voter pour ton maire. Va voter pour les européennes et fais le bon choix. Le bon choix. Inscris-toi dans un parti, s'il le faut. Dans un syndicat, s'il n'y a pas assez d'inscrits. En tout cas, engage-toi, sois humain, c'est-à-dire... Et j'arrive au bout de ma méditation. Sois humain, nous dit Jésus, c'est-à-dire sois loyal. Loyal avec autrui. Loyal, autrement dit, appliquant la loi, mais non pas comme on applique une règle, mais comme on vit en humanité, de sorte que derrière la règle se révèle la promesse qu'elle contient. La promesse d'une vie réconciliée entre les hommes. Alors, frères et sœurs, vous entrerez dans le royaume. Et d'ailleurs, vous y êtes déjà, d'une certaine façon. Vous y êtes déjà, comme dit calmement celui que je ne peux pas manquer de citer en ce lieu, ce Picard exilé qui n'a jamais pu rentrer dans son royaume, dans son propre royaume de France, Jean Calvin, qui disait... Ce règne-ci qui est spirituel commence déjà sur la terre en nous quelques goûts du royaume céleste. Et c'est cela, l'Église, peut-être, ce lieu où, à travers l'accomplissement de quelques règles, de quelques lois et de quelques usages, se perçoit ce à quoi nous sommes tous promis, un salut, une terre. Oui, vous entrerez, frères et sœurs, en ce royaume, prolepse du royaume qui vient, par Jésus qui ouvre la marche et qui accomplit toute la loi, toute règle, et qui en révèle toute la promesse. Amen.
Un grand merci, François. Et nous vous proposons de chanter ensemble donc le cantique 172 dans le petit recueil Louanges et prières, Célébrons l'Éternel, notre Dieu, notre seul Père. Les trois premières strophes du 172. Vous pouvez prendre place pour un temps d'annonce. Donc, François, si tu veux nous dire quelques mots sur cette noble institution qu'est la Fédération protestante de France.
Merci, Marc. Oui, vous connaissez la Fédération protestante de France. C'est une vieille dame qui est née en 1905, mais qui a rajeuni, au fond, au fur et à mesure des années qui passent. Elle comporte actuellement une trentaine d'églises de type luthéro-réformé. Alors on ne sait plus très bien s'il faut dire luthéro-réformé ou uni, de type baptiste, de type évangélique et de type pentecôtiste. Et puis la particularité de la Fédération protestante de France dans le paysage religieux européen, c'est qu'elle n'est pas simplement l'association d'églises. Elle regroupe aussi des œuvres, des institutions, des mouvements. Et lorsqu'on dit œuvre, institution, mouvement, on pense fondation de John Bost, Reuilly, CIMAD, CASP et autres choses merveilleuses que le protestantisme a su vivre comme des actes de foi dont je parlais à l'instant. Elle est actuellement, cette fédération, devant deux défis. La poursuite de l'élargissement à d'autres partenaires qui s'approchent d'elle. Et lors de la dernière assemblée générale, nous avons accueilli deux autres églises, les églises méthodistes et puis l'église évangélique Hillsong de Paris. Et le deuxième défi, ça a été évoqué tout à l'heure avec ce mot de mosaïque, c'est la pluralité culturelle, ethnique, spirituelle et confessionnelle, qu'il faut savoir faire vivre dans une société qui elle-même cherche ses marques et parfois les trouve dans l'Évangile.
Encore un grand merci pour donc cet engagement. C'est vrai que c'est pas facile, je crois, quand on est pasteur, d'aller s'engager comme ça dans des institutions, parce qu'en fait, on aime être dans une communauté, dans une paroisse. Donc moi, j'ai une grande reconnaissance pour ceux qui acceptent, voilà, de quitter la paroisse pour monter dans les hautes sphères. Alors, quelques annonces. Vendredi, ici même, à 19h30, il y a une célébration œcuménique organisée par l'association David et Jonathan, qui est une association donc d'homosexuels chrétiens, mais ouverte à tous. Et c'est vrai que ce n'est pas un temps, je veux dire, communautariste. C'est un moment où ils peuvent partager un petit peu les soucis qu'ils ont bien entendu dans une société comme la nôtre. Et c'est une occasion pour nous de les entourer aussi dans un temps donc de prière, de louange, de réflexion. Donc c'est vendredi ici à 19h30. Samedi de 10h à 11h, il y a l'hébreu biblique avec mon cher collègue donc Gilles Castelnau, donc c'est aux 4 rue de l'Oratoire. Dimanche prochain, prédication par James avec un culte comme tous les dimanches à 10h30. Il n'y a pas beaucoup d'activités pendant les temps de vacances scolaires pour que ceux qui ont la chance de partir soit au bain de mer, soit à la montagne, soit à la campagne, eh bien, puissent ne pas trop manquer de choses. Alors par avance, je vous annonce quand même qu'il y a un cycle d'initiation à la théologie qui est organisé donc deux fois par an. C'est James et moi qui l'animons. Il y a donc 6 rencontres qui permettent d'avoir les bases un petit peu de la théologie chrétienne, mais plutôt d'une méthode pour réfléchir par soi-même. Donc il y a un nouveau cycle qui va commencer début mars, juste après les vacances. Si vous désirez entrer dans ce cycle, eh bien, vous pouvez envoyer un mail à James ou à moi pour que vous puissiez recevoir les documents préparatoires avant chacune de ces rencontres. Alors sinon, il y a une feuille rose, notre bulletin, qui est en préparation. Vous pouvez donc vous inscrire sur la feuille qui est à la sortie, sur la table, pour la recevoir chez vous. Bon, si vous ne voulez pas la recevoir chez vous, vous pourrez la prendre sur la table dans quelques semaines. Mais vous pouvez utiliser cette feuille pour vous inscrire et éventuellement pour être sur la liste de diffusion de la newsletter, comme on dit en français maintenant, sur une petite nouvelle par Internet des activités, et éventuellement vous proposer comme bénévole pour un coup de main ponctuel ou régulier dans la paroisse. C'est vrai que nous réorganisons en ce moment un petit peu ces équipes de bénévoles, donc nous avons besoin de toutes sortes de compétences pour faire vivre l'oratoire. Alors en ce dimanche, nous avons une célébration de la scène. Alors tous sont invités à participer à ce repas en signe de leur désir de prendre, d'assimiler, de vivre de tout ce que Dieu nous donne en Christ. Alors bien entendu, nul n'est obligé de participer. Certaines personnes très engagées du point de vue de la foi ne participent pas à la scène, c'est tout à fait leur droit. Vous pouvez à ce moment-là, soit vous associez dans le cercle, les cercles qui vont se constituer ici, pour passer le plat et la coupe à votre voisin, ou bien rester à votre place pour méditer silencieusement. C'est vraiment comme on désire. Alors c'est vrai qu'on peut aussi prendre que le pain, ou prendre que la coupe, ou prendre les deux. C'est selon le désir, la volonté de chacun. De toute façon, c'est un geste, c'est un geste de foi. Maintenant, c'est le moment de l'offrande, donc les diacres de notre Église vont recueillir l'offrande qui est donc pour que l'Église puisse vivre, porter son témoignage et payer ses factures.
Au moment de partager ce repas du Seigneur, nous éprouvons le besoin de faire monter notre prière. Ô notre Dieu, Père éternel et saint, il est vraiment digne et juste, c'est notre joie, c'est notre salut, de te rendre grâce par Jésus-Christ, notre Seigneur, pour la gloire de ta création et pour ton amour. C'est pourquoi, avec tous les chrétiens, partout dans le monde, quelle que soit leur église, avec la grande nuée des témoins, en une commune joie, nous te rendons gloire. Trois fois saint est l'Éternel, toute la terre est remplie de sa lumière. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Voici comment l'Évangile selon Matthieu rapporte le dernier repas que Jésus prit avec ses disciples. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit, il le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous ». Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Et Jésus ajoute cette promesse qui est pour chacune et chacun d'entre nous et qui se réalise par l'Esprit. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Il y a la prière d'abord.
Nous prions. Ô Dieu de tendresse et de fidélité, nous voulons, par notre geste, nous souvenir de ce qu'a dit et ce qu'a fait le Christ pour toute l'humanité. Envoie sur nous ton Saint-Esprit pour qu'en recevant ce pain et cette coupe, nous soyons en communion avec le Christ, avec sa façon d'être, avec ses paroles, avec sa résurrection. Envoie sur nous ton Saint-Esprit pour attendrir notre cœur et nous permettre enfin de reconnaître que notre prochain est digne d'être respecté et servi. Nous pensons devant toi et grâce à toi à ceux que ton amour nous appelle à garder nous-mêmes. Nous les nommons dans le secret de notre cœur. Et tous ensemble, nous osons te prier comme notre Père commun à toutes et tous, en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur, je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Seigneur, je ne suis même pas digne de ramasser les miettes qui tombent de ta table, mais tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et ainsi, c'est sans aucune crainte que quiconque le désire peut participer à ce repas et prendre le pain, boire la coupe, en signe de son désir d'être accueilli par le Christ. Alors nous avancerons par l'allée centrale et nous constituerons des tablées d'une cinquantaine de personnes. Ensuite, vous pourrez repartir donc par les allées latérales, si c'est possible. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été rompu pour nous.
La coupe pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la coupe de l'Alliance nouvelle pour la multitude.
Heureux celui qui trouve sa joie dans la parole de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. C'est toi qui pardonnes toutes nos fautes, c'est toi qui guéris toutes nos infirmités, c'est toi qui arraches notre vie à la tombe, c'est toi qui nous couronnes de bonté et de miséricorde. Je bénirai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Amen. Et maintenant, vous pouvez vous lever pour recevoir la bénédiction qui est envoyée par Dieu directement à chacune et à chacun. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller sur toi sa lumière et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève les yeux vers toi et te donne la paix. Amen. Donc normalement, il y a le spontané.
Yeah.